Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Bon, la première réelle que j'ai faite, c'est Lorenzo Benedetti, qui était le producteur de Studio Bagel. Il m'appelle un lundi, il me fait « Ouais, t'es chaud pour faire des sketchs, pour réaliser des trucs ?» Moi, je suis là « Ouais, grave et tout ». Il me fait « Bah, j'ai un truc là, tournage mercredi, c'est diffusé samedi, ok, t'es chaud ?»
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
Quand on l'a lancé What the Fuck France, il faisait 50 personnes et même après 6 épisodes, c'était blind. Enfin, tout était booké pendant 4 mois.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute. Bonjour Félix.
Bonjour, ça va?
Merci, ça va très bien et toi?
Ouais, bien.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bon,
je suis ravi de t'avoir avec nous sur le podcast. Tu es réalisateur et tu travailles depuis plusieurs années maintenant sur de nombreux projets de comédie. Après des débuts au Studio Bagel comme monteur-réalisateur, tu as pu travailler sur de très nombreux projets autour de la comédie, notamment What the Fuck Friends avec Paul Taylor, que
ouais,
tu réalises.
Exactement.
M'a beaucoup, beaucoup fait rigoler à l'époque. Les fables d'Oda et d'Ako en plus récent, ou encore différents formats courts pour Click TV avec Migraine de Roman Fraisinet,
ouais.
Etc. etc. Tu as des projets à l'appel qui sont très orientés humour.
Ouais, très orientés programme court aussi.
Ouais. Et là, en plus, tu as récemment lancé Yellow Mike, qui est ton podcast en partenariat avec le Montreux Festival.
Ouais, le Montreux Comédie Festival, c'est ça. C'est le blaze.
faut dire la marque entière, pardon.
C'est la marque. Exactement. Ça fait une dizaine d'années que je travaille avec eux. Et du coup, je leur avais proposé différents projets en parallèle du festival pour essayer de faire vivre la marque autrement que sur scène, en fait. Et du coup, bah, on a fait plusieurs trucs ensemble et notamment ce podcast qui a la chance de plutôt bien marcher. Et qui s'appelle Yellow Mike, où en gros, c'est simple, je prends un passage d'un humoriste sur scène au festival, je l'écoute et après, bah, voilà, on boit un coup, on se pose avec un micro et on discute de ce passage-là avec le peu d'expérience de scène que j'ai, mais en même temps, l'expérience de réalisateur de comédie que j'ai, mélangé au fait d'être un peu néophyte, enfin, tu vois, de pas connaître non plus énormément les rouages spécifiques et techniques de la scène.
Ouais, de l'écriture un peu.
Voilà, ce qui fait que mes questions vont peut-être être un peu plus grand public.
Ok.
Voilà. Et
super.
Ouais, c'est tout, quoi. Et l'idée, c'est d'essayer de moins parler possible dans ce podcast.
Pour laisser parler.
Exactement.
C'est ce que je vais essayer de faire.
Ouais, plus je la ferme, mieux je me porte.
Bah, aujourd'hui, tu as le droit de parler, donc c'est parfait. Donc du coup, pour reprendre un peu tes débuts, tu as démarré au Studio Bagel.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'amène au Studio Bagel? C'était il y a quoi? Il y a 12 ans, un truc comme ça? 10
non,
ans
il y a moins que ça, parce que
ça.
Studio Bagel a moins de 10 ans aussi.
Ah ouais,
ouais, ouais, ça va vite, comme quoi, tu vois, on en parle d'un truc, on a l'impression que c'était il y a 50 ans. En fait, c'est y a plusieurs choses que je vais résumer assez simplement dans le fait que j'ai toujours été un peu passionné par la photographie et la vidéo. Donc, on a fait des trucs avec des copains, normal, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, qui commencent à créer des choses un peu à droite à gauche. Et moi, je fais en fait partie de ce que je peux appeler la génération du 5D Mark II. J'ai l'impression. Parce que c'est vraiment, pour moi, ça... Alors, il y a eu des réalisateurs qui viennent du web, notamment Ludoc, on en parlait tout à l'heure, hein, qui ont utilisé des cams bien avant les DSLR et les Canon et tout. Mais il y a eu, je crois, une grosse démocratisation de la possibilité de faire des belles images avec peu de moyens, il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il y a eu vraiment cette explosion-là. Quand les boîtiers plein format de Canon,
sont
Nikon
arrivés,
sont arrivés, on commençait à faire de la vidéo avec ça. Sony maintenant, beaucoup mieux que... moi, je parle vraiment de cette époque du 5D Mark II qui était vraiment un boîtier où quand c'est arrivé, vraiment, ça a fait peur à des chef-op de pub en France, tu vois, qu'il y ait un boîtier qui coûte 2000 balles avec une bonne optique puisse te sortir des images qui sont quali,
ouais, ciné, qui sont diffusables sans problème,
voilà.
En télé, en cinéma.
Ah, après, il y avait plein de problèmes avec les talos, le son et tout, tu connais. Mais
il y avait cet effet bokeh que tu voyais partout, qui était un peu décrié. Enfin bon, c'est.
Mais ouais, et du coup, je trouvais que ça, en fait. Ça a changé, je pense, peut-être c'est juste ma manière de penser, mais ça a changé beaucoup de choses parce que avant, je pense que l'audiovisuel était très militaire. Il fallait rentrer dans une équipe technique et prouver et montrer petit à petit que tu étais capable de gravir les échelons et faire des choses. Et là, d'un coup, tu te retrouvais avec des gens voilà, qui achetaient un Zoom, qui achetaient un 5D, et puis qui avaient trois potes comédiens, et yalla, ils sortaient,
jeunesse.
tu vois, ils faisaient un film, quoi. Et ça, c'est un peu la génération, je crois, dont je fais partie. Donc, on a commencé à créer des choses comme ça. Donc, je me suis forcément payé avec, à force d'économie, un petit boîtier 5D. Et à l'époque, moi, je faisais beaucoup de making-of. Alors, moi, je viens du montage à la base,
Ok.
avant même Bagel.
Mais alors du coup, pas d'école particulièrement. T'as
Non.
fait, t'as appris le montage sur Sony Vegas tout seul chez toi, pas loin.
Non, bah, pas loin. Pas loin. Deux choses, deux trucs un petit peu marrants là-dessus. En gros, moi, je suis arrivé sur Paris la première année pour. Je me suis dit, je vais faire une école de prod. Tu vois. Donc, je suis rentré dans une école qui était très chère, qui ne m'a pas beaucoup appris. Et au bout de 2, 3 mois, je me suis barré de cette école-là pour faire un stage. Et en fait, jusqu'à la fin de l'année, j'ai demandé à avoir une convention de stage. Et j'ai été pris dans une boîte qui s'appelle Onirim La Production, qui est une boîte aujourd'hui quand même un peu connue et qui fait beaucoup de films produits luxe, parfums et tout. Et j'ai été stagiaire chez eux en chargé de post-prod, assistant de chargé de post-prod.
Ah,
Donc
donc tu
j'avais
faisais
un
de la
peu les. Ouais.
digite un petit peu,
Que
c'est
ça, quoi. Tu vois,
OK.
genre vraiment de la digite et tout. Et là où ce qui était hyper bien, c'est que moi, je travaillais avec des monteurs qui étaient des monteurs pour Dior, pour L'Oréal et tout, qui faisaient beaucoup avec pas grand-chose, parce qu'au final, c'était beaucoup de. Tu sais, de.
De beauty,
Ouais,
des plans
exactement.
très
Tu vois, où il faut
serrés.
les monter en musique, il faut quand même de faire un truc qui soit. Donc, c'était des monteurs qui étaient très forts et qui étaient très chers aussi. Tu vois. Et ce qui était trop bien, c'est que moi, je m'entendais bien avec eux. Et quand on avait des modifs clients, et tu connais les modifs clients, surtout dans les produits de luxe, ça part en V12, V13 et les VDF4, VDF5, tu vois. Et en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi, j'avais vraiment les mains sur le truc et les petites modifs où il fallait rajouter un plan d'une comédienne ou en tout cas rallonger peut-être un plan ou caler un truc par rapport à la musique, c'est moi qui m'en occupais. Donc en
Ok.
fait, je reprenais des montages de monteurs qui étaient déjà très forts. Donc c'était trop bien parce que j'avais la main, tu vois,
Ouais,
sur
tu pouvais
leur
voir
montage.
l'envers du décor, de
Voilà,
comment
je
ils
voyais comment
bossent,
ils
comment
montaient,
ils ont construit
etc.
leur truc.
Et c'est comme ça que j'ai, moi, appris à monter.
C'était sur Avid peut-être alors, non?
Non, c'était sur Final Cut
Oh, même pas, ok.
7.
Attends, je l'ai
Ouais,
vraiment
ouais.
pas. J'ai essayé, je me suis dit si ça part sur des très pros en général, on va être
Non, mais alors,
sur du
Avid,
Avid, mais.
très marrant, parce qu'après, moi, j'ai, y a une émission qui s'appelait Alcaline, qui était une émission de musique sur France 2, qui m'a appelé pour faire des pastilles. C'était des 1 minute 15 de présentation d'album, donc 3 chansons avec de l'interview, un truc très dynamique. Donc ça, c'était un exercice aussi qui était super pour monter. Et ça, moi, c'était sur Avid. Et effectivement, quand ils m'ont appelé pour une pige le vendredi, moi, le lundi, je savais pas Avid, tu vois. Et du coup, j'étais sur, tu sais, les trucs Elephant et tout. Je me suis acheté une formation, je me suis juste buté du Avid toute la nuit. Et puis, bah, à la fin,
Rôle et
c'est.
jeunesse.
Et puis, tu as toujours un monteur à droite, à gauche. Si tu es gentil, poli, tu vois, et que tu poses une question, il va forcément
Il va
venir
te
t'aider si
répondre,
jamais tu
ouais.
as le moindre souci. Donc ça, donc je digresse un peu sur le truc, mais en gros, moi j'étais monteur à la base, et donc j'ai commencé avec Alcaline justement cette émission où je faisais du montage. Moi j'étais voir le mec, je lui dis ouais, moi, je fais un peu de making of et tout. Il m'a dit bah moi je cherche quelqu'un pour faire un peu des images en coulisses de l'émission. Donc je pars avec mon 5D, tac, je fais deux trois images. En plus c'était cool parce que tu vois c'est genre Damon Albarn et tout, tu vois, un truc un peu cool. Et donc du coup je fais un peu, je commence à toucher ma bille en making of. En tout cas j'essaye de faire des making of. Je suis contacté par le Montreux Comedy Festival pour faire des making-of sur place. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrive là-bas. Je connaissais aussi quelqu'un qui travaillait là-bas, qui s'appelle Mathieu Marot, qui est un producteur aujourd'hui avec qui je m'entends hyper bien. Le truc, c'est que moi, je suis arrivé là-bas et j'avais une émission qui s'appelait Inside Montreux Comedy. Vous pouvez encore voir sur le net. C'était en 2012, donc c'était il y a
OK.
10 ans. Et en gros, je filmais des rushs, des rushs, des rushs toute la journée, je montais la nuit et le lendemain midi, c'était diffusé. Donc c'était un peu en mode hardcore, tous les jours, je faisais
Ouais, c'est
une
vraiment à la
émission, quoi.
chaîne,
Ouais.
faut enquiller.
En rythme, en musique, en dynamique et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup d'expérience de montage, ont fait que c'était plus facile pour moi à gérer, mais j'étais vraiment dans un truc où je commençais à 14h, je terminais à minuit, je faisais que du tournage, de minuit à 5h du mat, pardon, de minuit à 5h du mat, parce que je tape sur la table, ça va faire du bruit, de minuit à 5h du mat, je montais et je dormais de 5 à 11h et ensuite c'était diffusé. C'est un truc que je ferai plus jamais maintenant. Le truc, c'est.
Il faut bien commencer.
Voilà. Montreux Comedy Festival me rappelle la deuxième année pour faire exactement la même chose. Il se trouve que le studio Bagel vient faire une scène au Montreux Comedy Festival, chose qui n'a jamais été diffusée parce que ce n'est pas terrible, on va pas se
OK.
mentir. Et je rencontre Je rencontre plusieurs personnes hyper importantes pour moi, dont Vanessa Bria, qui était directrice de, enfin qui était même productrice au studio Beagle et qui travaillait beaucoup avec Monsieur Poulpe et qui avant faisait le Golden Show avec Davy et Poulpe. Et qui, elle, m'a donné mes premières piges un peu dans le web. C'est-à-dire que j'ai fait du cadre sur le Golden Show et j'ai commencé un tout petit peu à rencontrer des gens comme ça. Donc Raphaël Descraques, François Descraques, je les ai connus là-bas. Et Vanessa me rappelle et me dit « Bah écoute, nous, on a le studio Beagle qui commence à bien marcher. Ça fait un an qu'on lance des vidéos et tout. » On a envie de démultiplier la chaîne et de faire plus de vidéos. Donc, on va faire des making-of autour des vidéos principales. Et du coup, on les diffuse en plus. Et
ouais, ça fait du contenu.
Voilà, donc je pars avec, pareil, mon 5D, mon MacBook Pro, tu vois, sous la main. Et je fais des making-of pour Beagle. Donc, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse au début. C'est con, hein, c'était des petits trucs. Mais tu vois, j'étais hyper... hyper impressionné.
Du coup, à ce moment-là, tu es tout seul pour faire ces making-of. Hein. Tu as la cam, tu arrives, tu dérushes, tu fais ton montage, tu balances et on y
et
va.
Et c'est making-of comédie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du making-of technique. Mais c'est moi, c'est le making-of que j'aime. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus de making-of. Les making-of, c'est que de la com les films. Mais le making-of vraiment qui vient de chercher dans des détails, dans des choses marrantes et tout. Mais ça impose par contre de bien s'entendre avec les comédiens.
Ouais, parce qu'il faut qu'eux jouent avec toi aussi.
C'est ça,
pendant le tournage,
des choses. C'est un travail qui n'est pas simple et qui m'a pas mal formé. Ces making-of ont fait que. Donc j'étais sur toutes les réals de Ludoc. J'ai aussi été sur des réals de Théodore Bonnet, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui est un autre réalisateur de Beagle. Je les ai vus travailler, donc moi ça m'a vachement aussi appris à travailler et ce qui était cool c'est que Ludoc du coup en voyant mes making of m'a proposé de faire du montage de ses vidéos à lui, de ses sketchs. Donc après j'ai commencé à faire du montage sur les sketchs. Studio Beagle a été racheté par Canal+, et même il y a eu une explosion à l'époque. Il y a des chaînes qui sont ouvertes, Studio Movie, Studio Gaming, etc., qui n'existent plus aujourd'hui. Et ça a été l'occasion pour nous de commencer à réaliser des choses.
Est-ce que du coup, l'arrivée de Canal a fait qu'il y a eu une demande de contenu un peu plus grosse ou peut-être des moyens plus importants?
Oui, et puis ça explosait, tu sais. Et puis il y a eu cette arrivée aussi du marketing dans les vidéos web où il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de production. Quoi. Golden Moustache, c'est pareil, ça produisait à mort. Et en fait, on ouvrait des chaînes sans vraiment trop savoir où on allait avec. Tu vois, non, mais c'est vrai. Mais ce qui était génial, c'est que moi, je voyais quelque chose qui était complètement en expansion avec des gens qui avaient mon âge.
Qui avaient faim, qui avaient envie d'avancer.
Et encore une fois, tu vois, c'est la meilleure formation de ma vie, quoi. C'est comme si j'étais... j'ai jamais fait d'école, tu vois. Et c'est comme si j'arrivais dans une école gérée par des étudiants, avec des étudiants beaucoup plus forts que d'autres. Et tu fais avec d'autres étudiants des trucs et toutes les semaines, t'as des trucs à faire. Moi, la première réelle que j'ai faite, c'est... Je rigole de ça et j'espère qu'il m'en voudra pas de le dire, mais Lorenzo Benedetti, qui était le producteur de Studio Beagle, il m'appelle un lundi, il me fait « Ouais, t'es chaud pour faire des sketchs, faut réaliser des trucs ?» Moi, je suis là « Ouais, grave et tout. » Il me fait « Bah, j'ai un truc là, tournage mercredi, c'est diffusé samedi. Ok, t'es chaud ?» Je fais « Ouais, il raccroche, voilà. » Tu sais, moi, le lundi, je suis là « Bon, qu'est-ce que je fais ?» Tu vois, je tourne après-demain et voilà. Et en fait, t'as pas le choix, quoi. C'est un peu comme « Oui, il y a ce côté un peu « Je te jette dans la piscine et t'apprends à nager. » Mais en même temps, on avait des capacités techniques. On n'était pas non plus... on sortait pas de rien.
Et du coup, à ce moment-là, tu es encore, comme sur les making-of, réel, la caméra à la main. C'est vraiment... C'est toi qui fais tout de A à Z, on est d'accord.
J'ai fait un sketch qui s'appelle Spoil Club. Peut-être que si tu regarderas, si t'as l'occasion, qui est sorti il y a 6-7 ans. Où je me souviens avoir fait... C'est un peu mon record, mais j'avais fait... 125 plans dans la journée, tu vois.
Oh waouh.
Mais je fais ça parce que je suis avec le 5D et que je dis à mon comédien ouvre la porte là et personne comprend ce que je fais et voilà, je leur demande pas de me comprendre. Parce que dans ma tête, comme je viens du montage, j'ai ma timeline déjà précise en fait. Comme moi, quand j'attaque un film, je sais quels sont les plans, à quel moment ils interviennent, tu sais combien de temps ils durent, etc. Donc en fait, j'ai déjà mon rythme de montage dans ma tête. Donc après, j'applique juste mon montage en fait quand je suis en tournage. Et alors, moi, maintenant, mais ça, c'est parce que j'ai évolué aussi. Tous ces sketchs-là ont fait que Ludoc, et notamment, enfin, surtout Canal+, en fait, a acheté à Studio Beagle un programme qui s'appelle Le Tour du Beagle, qui était un enchaînement de sketchs qui était diffusé vraiment en télé. Et ça, c'était vraiment un truc où le Studio Beagle se donnait les moyens de faire quand même des choses qui sont qualitatives, fiction, création, originale, Canal.
Tu veux dire que d'un point de vue même moyen technique, etc.,
ouais,
c'est plus le même,
c'était
c'est
plus
plus la même
évolué,
chose.
il y avait plus de gens, même si ça restait quand même un peu à la cool parce qu'on était entre potes et que c'était
Ouais,
quand
bien
même des
sûr.
équipes techniques qui étaient souvent les mêmes et qui tournaient. Mais on se retrouvait avec, il y avait des assistants cam, il y avait des, tu vois, des électros, enfin, c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, tu vois.
Ok.
Il y avait plus de choses, tu avais des vrais régisseurs hein, qui arrivaient, qui mettaient des groupes électrogènes, enfin, tu vois, des choses qui
Ouais.
paraissent peut-être aberrantes quand tu fais des grosses prods, mais qui en vrai, quand tu viens
Quand tu
de nulle
démarres, ouais,
part,
c'est...
tu vois, c'était quand même fou. Et donc le tour du Beagle commence et en fait, Ludoc veut créer un pool de réal pour réaliser ces tours du Beagle-là, donc avec lui en lead réal et ensuite Théodore Bonnet.
OK.
Qui est normal parce que c'était le deuxième gros réalisateur de Beagle. Et après, il me prend moi et aussi Louis Farge, je ne sais pas si tu connais, mais qui est un super réalisateur et un ami. Et donc, du coup, tous les quatre, on réalise ça, on réalise le tour du Beagle et on rentre dans une autre dimension parce qu'en fait, on fait des programmes qui sont diffusés à l'antenne de Canal+. Et ça nous porte, en tout cas, ça nous donne une crédibilité pour faire d'autres programmes qui
Ouais, évidemment.
potentiellement sont à l'antenne.
Parce que jusqu'à présent, tu es quand même estampillé YouTube,
Exactement.
Studio Bagel,
Ouais.
lalala. Même si à l'époque, c'était quand même énorme. Déjà, le Studio Bagel, c'est le premier vrai studio, un peu, enfin, un rassemblement de créatifs
Oui.
qui popait sur Internet.
Ouais.
Tu restais estampillé YouTube, quoi. Donc
Ouais.
là, tu as l'aval Canal qui arrive et qui
Et YouTube,
te.
moi c'est simple, mais quand on est arrivé, nous, à 25 piges à l'intérieur de Canal, les gens nous regardaient mal, enfin on était mal vus, tu vois. Nous, on filmait dans les couloirs des bureaux, on s'en foutait, tu vois, genre il y avait beaucoup de critiques par rapport à ça, mais parce qu'on jouait pas le jeu, on n'avait pas envie d'avoir des badges, on n'avait pas envie de monter sur un vide, on craquait des premières, enfin tu vois, c'était pas juste ce qu'on faisait, tu vois, c'était. Et en même parce qu'on arrivait dans un gros groupe et on était un peu des fous, quoi, enfin des fous, j'exagère, mais on était un peu. On avait ce truc de jeunesse bat les couilles
Ouais.
et peut-être un peu de condescendance aussi, parce qu'un peu de pédance en pensant qu'on était, tu vois,
Ouais,
le
que
futur
la
de
télé, c'est
ouais.
mort
Alors que pas du tout. Et du coup, tout ça fait qu'il y avait il y avait quand même un, comment t'appelles ça, une séparation entre les gens qui travaillaient en télé et YouTube, ça se sentait. On s'aimait, il y avait pas, enfin, on s'aimait pas trop. Et c'était encore pire dans le cinéma. Vraiment, le
OK.
cinéma, c'était pire. Ce qui est marrant, c'est que tous les gens qui ont voulu commencer sur YouTube à l'époque de la fiction de YouTube, je parle, hein, pas de YouTube de vlog, pas les Norman et tout, c'est ce qui est différent pour moi. Mais vraiment, les gens qui faisaient de la fiction, que ce soit Golden Moustache, Studio Bagel, mais même ce qu'on en parlait, les Parasites, enfin, tu vois, c'est des gens qui ont voulu faire du cinéma. Enfin, je pense.
Ouais,
On
bien sûr,
était vraiment
y a une
animés par
volonté
cette idée de faire du cinéma.
de raconter des histoires, de faire de la fiction, ouais.
Ah, et quand t'arrives et que les premiers gens que tu rencontres dans le cinéma, ils te disent, bah non, tu fais du web, t'es une merde, au revoir. Bon, bah, tu vois, t'es triste, quoi. Et du coup, tu commences effectivement à te dire, bah non, bah en fait, c'est pas grave, YouTube, ça existe. Nous, on existe en tant que tel. Et puis, on a essayé de faire des trucs de notre côté. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, quand tu rentres dans Canal, c'est un peu plus difficile. Mais effectivement, la crédibilité de réaliser quelque chose estampillé avec le petit logo en haut à
Canal
gauche,
Plus, ouais.
Canal+, hein, bah ouais, ça te met dans une autre dimension. Et donc, du coup, j'ai eu la confiance d'une femme que j'admire et que je respecte énormément, qui s'appelle Ariel Saraco, directrice des programmes de Canal+. Qui m'a fait confiance pour des programmes courts. Et donc voilà, j'ai travaillé avec Paul Taylor, notamment. On a fait What the Fuck France. Là, ça a explosé. Donc ça m'a
Ouais.
encore plus donné de
Parce que
crédibilité.
du coup,
Ouais, dessus.
justement, pour s'arrêter 2 secondes sur ça,
Ouais.
toi, à ce moment-là, tu bosses déjà pour Canal parce qu'ils ont racheté le studio Bagel et qu'en plus, du coup, Ludoc t'a missionné sur le tour du Bagel, etc. Donc, tu as
Ouais.
déjà quand même un peu de bagage, on va dire, avec Canal+, qui te
Ouais.
connaît. Et donc, du coup, tu as la dire de prod qui vient te voir et qui te propose ce programme-là. Comment
Alors, le
ça se
programme
passe,
de What
ouais?
the Fuck France, c'est Paul Taylor qui avait fait tout seul une vidéo qui s'appelle La Bise, qui est encore disponible sur sa chaîne YouTube si vous voulez
Ok.
voir, qui est un truc qu'il fait au Paname, qui est un comedy club de Paris que les gens connaissent peut-être, qui est un espèce de plan séquence un peu moins rythmé où il explique l'absurdité de la bise en France. Et donc, ce truc-là fait plus d'un million de vues assez rapidement. Et Canal+ le contacte parce qu'ils ont envie de travailler avec lui. Donc, du coup, lui, il arrive à Canal+ en se disant, bah, pourquoi pas faire un programme court avec Canal+, ou en tout cas essayer de. Parce que Canal aime bien travailler avec ce que j'appelle pas des identités, mais des gens. Enfin, ils aiment bien développer des talents. Alors on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a une identité forte, que ce soit en comédie ou n'importe, t'arrives avec une certaine identité, donc ce que t'as un talent. Ils vont vouloir travailler avec toi pour te produire sur plusieurs choses, limite t'emmener sur de la grosse série après, financer la captation de ton spectacle, etc. Donc en fait, travailler avec des talents. Donc en fait, ils voient ce talent, Paul Taylor, qui est un peu original, qui sort un peu de ce que tu vois d'habitude sur scène et en comédie, parce qu'il y a le côté anglophone, le côté vision extérieure de l'autre, enfin de l'étranger qui regarde la France. Et donc du coup, il arrive à Canal+, on a envie de travailler avec lui et faire un programme court. Il y a cette envie de faire un programme court. Paul Taylor rencontre Lorenzo Benedetti, qui était producteur au studio Beagle. Et lui me met en contact directement. Lorenzo me met en contact avec Paul. Et on s'entend très bien déjà, nous, tous les deux, avec Paul. Et on s'entend encore très bien. C'est un ami à moi. On est devenus très proches. Et du coup, on crée ce truc tous les deux. Et ce qui était génial, c'est que lui n'avait pas forcément l'ambition non plus. De réaliser son propre programme. Donc, il n'avait pas forcément des grosses idées de direction artistique, de quoi que ce soit, mais il avait des très bonnes vannes et des très bons textes. Et surtout, il était très structuré dans ses textes. Donc, c'était très agréable.
Ok. Que du coup, toi, t'arrives sur ce projet-là, t'es réal. C'est lui qui écrit. T'écris avec lui ou
En
c'est...
fait, je fais souvent, quand je travaille avec un stand-upper, je fais ça. On prend un sujet, le sujet de la vidéo, je lui demande de me faire un passage sur scène comme s'il était sur scène pendant 3 minutes. Et après, moi, en fonction de ce qu'il m'a écrit, je mets en scène.
Ok.
Et je choisis les séquences, c'est moi qui fais les intérieurs jour, etc. Tu vois.
En fait, ça te permet d'avoir la direction
Oui.
et...
J'ai toujours travaillé dans l'idée qu'un comédien n'est pas juste drôle avec un texte, il est drôle parce qu'il dégage aussi quelque chose. Son identité, son honnêteté. Et chaque comédien, et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui est chouette d'ailleurs dans le stand-up ou n'importe, a sa propre identité. Et donc du coup, sa propre façon de faire de la comédie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vois, tu as une bouteille d'eau là sur la table qui est face à nous, je te prends 10 comédiens différents, ils vont jamais faire les mêmes vannes ou la même intention de vanne sur cette bouteille d'eau, et chacun va avoir vraiment sa façon de le faire. Et donc du coup, quand tu réalises avec un humoriste, pour moi, la principale idée que tu dois avoir dans ta tête, c'est pourquoi ce mec est marrant. C'est-à-dire que si tu as compris pourquoi il est marrant, si du moins tu as essayé de chercher et faire l'effort de comprendre pourquoi il est marrant, tu vas mettre en scène pas parce que ça te fait kiffer. Moi, quand je fais What the Fuck France, je me dis pas ça me fait kiffer de faire un faux plan séquence et de transition. J'ai face à moi quelqu'un qui est très dans l'énergie, qui est très dans l'agressivité, tu vois, qui dégage cette énergie-là, et j'ai besoin de transparaître dans ma réalisation beaucoup d'énergie. Donc, je suis obligé, entre guillemets, d'avoir un stead parce que c'est 24 plans par seconde, c'est ça qu'on dit avec un stead. Et du coup, ça donne une énergie même quand il y en a moins. Et donc, ça permet déjà de faire ça. Et en plus, l'idée de plan séquence est mélangée avec le fait que c'est intéressant pour nous de travailler ce truc-là. Mais et il y a aussi un autre truc, c'est que Paul, il s'adresse aux Français pour montrer l'absurdité des choses et de nous. Il vient montrer du doigt l'absurdité de la culture française. Donc, forcément, il brise le quatrième mur pour nous parler à nous en tant que Français. Et il évolue dans un monde qui est caricaturé parce que lui caricature aussi et grossit un peu les traits de la culture
Ah, bien
française.
sûr.
Et donc du coup, je le mets dans un monde où personne ne voit la caméra à part lui, où on est en France, dans une France qui est très caricaturée, parce que tu vois, t'as de la musique, c'est de la musette, enfin tu vois.
Ouais, t'as le béret, la baguette, on y va,
Voilà.
ouais.
Pour venir effectivement créer un espèce de clown de la France qui nous amuse parce qu'il est un peu vrai aussi. Il vient toucher à des choses qui nous amusent parce qu'elles sont un peu vraies. Et face à lui, face à elle, un monsieur loyal qui est Paul, qui va être vachement plus dans l'explication et l'agressivité et tout. Et donc, du coup, quand je fais What the Fuck France, je me pose toutes ces questions-là et j'essaie de travailler en fonction. Mais tu vois, quand je fais Migraine avec Roman Frayssinet, moi, je sais que Roman, c'est un mec qui a une absurdité folle, lui, dans sa tête, et qui est un comédien hors pair. Et donc, du coup. J'essaie de le mettre dans un monde qui est le plus réel possible. C'est-à-dire que tous les comédiens qui jouent face à lui sont dans une justesse de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un comédien qui va être absurde, qui
Ouais,
va faire
c'est
des
très
trucs bizarres.
naturel.
Et lui est chelou. Et c'est même drôle de voir des gens très normaux le regarder en tant que lui bizarre. Alors qu'à l'inverse, par exemple, les Fab d'Oda et Daco, où eux sont très sur quelque chose qui va être lié à la nostalgie, mais aussi au personnage omniscient qu'ils racontent, je vais avoir plutôt une réflexion à me dire. Eux racontent quelque chose qui est dans un monde qui a de l'énergie. Donc je vais leur mettre autour d'eux
Plein
des
d'éléments.
comédiens qui sont marrants, qui vont rapporter du clown, des choses comme ça, tu vois. Pour eux, les faire très droits et très porteurs porteur de morale, parce qu'au final, c'est une fable, et qu'à la fin d'une fable, il y a une espèce de mort. Donc, tu as toujours une réflexion qui se fait sur un comédien quand tu travailles avec lui, et tu essaies de comprendre pourquoi il est marrant. Alors que nous, quand on travaillait au studio Beagle, il y avait certainement, je pense, un peu trop l'envie de se montrer en tant que réal. Mais oui, on était beaucoup sur nous, sur, on avait envie de se montrer, et des fois, effectivement, ça décrédibilisait l'histoire, la comédie, ou... Donc c'était un peu chacun essayer de gratter un peu la couverture vers lui avec des, tu vois, des, même chaque comédien, même des youtubeurs qui peuvent être très très drôles seuls, c'est compliqué de les accompagner dans un truc où ils sont en groupe, où chacun a envie d'exister plus que les autres, et même le réal était dans cette situation là donc des fois tu te retrouves avec des trucs qui sont un peu cacophoniques, et des fois tu as ce que j'appelle l'alignement des planètes, où je sais pas pourquoi il y a une justesse où tout le monde est un peu d'accord avec la façon de faire cette comédie-là, et ça crée des sketchs qui sont très chouettes, tu vois. Et ça arrive, mais ça prend du temps.
Et donc, du coup, il y a quand même vraiment un travail spécifique en tant que réal sur des vidéos humoristiques. Il y a quand même, enfin, vidéo humoristique, c'est pas le bon terme.
Bah, si, c'est ça, ouais. Si, tu peux appeler ça comme ça. Mais... Tu sais, on est. Bah, quand tu fais des vidéos qui sont censées faire marrer, faut quand même faire marrer les gens.
Ouais,
tu vois,
bien sûr. C'est quand même de la fiction humoristique, quoi.
Ouais.
C'est pas juste le. Toi, tu parlais de Norman tout à l'heure, c'est pas juste un mec face caméra qui raconte des conneries.
Ça se rapprochera plus du stand-up, ouais, pour le coup. Oui.
Et donc, du coup, il y a quand même un vrai travail pour toi, en tant que réalisateur de ces contenus-là, de comprendre le comédien qui est en face de toi et qui va être le cœur du truc, et de construire autour de lui, autour de sa personnalité.
Mais même pourquoi il est drôle, pourquoi il est drôle dans cette situation là est-ce que c'est un enfant, est-ce qu'il boude, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est, tu vois, c'est toutes ces questions là que tu dois te poser sur comment je le filme. Tu filmes pas quelqu'un parce que c'est joli.
Ouais, bien sûr. C'est tout l'opposé en fait peut-être d'une réale classique où tu vas prendre un scénar et tu vas dire, ok, bah, ce personnage-là, je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, tu vas construire autour de ce que toi, t'imagines, trouver le mec qui colle à ton personnage et composer, en fait, tout de A à Z. Là, toi, t'as cet élément, on va dire, extérieur.
Ah, on en parlait tout à l'heure, justement. Je trouve que c'est la différence fondamentale entre un... Je vais appeler ça youtubeur, mais faut pas que ce soit dégradant pour eux, parce que voilà, mais... Entre les youtubeurs, en tout cas, qu'on avait au studio Beagle, et les humoristes aussi qui font du stand-up, que je classe un peu dans la même catégorie, et un comédien qui va être vraiment, tu vois, dans la formation classique de la comédie, limite comédie française, tu vois. Un comédien, un vrai comédien, tu vas, entre guillemets, pouvoir l'emmener... C'est à toi de l'emmener dans un personnage que tu trouves marrant.
Diriger vers quelque chose.
Parce qu'il est capable, entre guillemets, d'avoir plusieurs facettes, plusieurs cordes à son arc quand il travaille... Et même s'il y a des comédiens qui sont plus forts dans un secteur que d'autres, tu vois, enfin dans un type de comédie ou un type de... Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, un comédien va beaucoup plus essayer de travailler avec toi dans ce sens-là, d'essayer de comprendre ce que toi, tu cherches, alors qu'un humoriste, en général, a moins de formation de comédien. Et donc, du coup, comme ils ont moins de formation de comédien, tu ne peux pas les emmener dans un personnage qu'eux ne maîtrisent pas ou ne contrôlent pas, voire ne comprennent pas. Et donc, du coup... C'est plus intéressant, surtout quand le talent est vraiment mis en avant dans le programme, tu vois. C'est plus intéressant de travailler avec lui, de le comprendre et d'essayer de le sublimer sa comédie à lui, plutôt que de l'emmener dans une comédie qui maîtrise pas, quoi, ou peu. Et puis, t'as des gens qui sont beaucoup plus forts dans certains types de comédies que d'autres, tu vois. Donc oui, l'idée, c'est d'essayer de chercher un peu ça, et c'est différent. Mais après, il y a ce qui est vrai, c'est que de toute façon, il faut faire rire les gens, quoi. Donc tu dois avant tout essayer de les filmer pour faire en sorte que ça soit marrant. Et effectivement, avec des bons cadres, tu as moyen de créer du rire juste avec des cadres. Et j'insiste parce que je viens de là et parce qu'on n'en parle pas assez, et le montage. Moi, je travaille avec des monteurs que je trouve tellement forts, qui me rajoutent des vannes. C'est-à-dire que moi, quand je vois des V1 de choses que j'ai réalisées, que, tu vois, limite écrites et avec, sur lesquelles j'ai travaillé, je regarde la première version, il y a des vannes que j'ai, tu vois, auxquelles je n'avais pas pensé, qui sont là, tu vois. Et alors, des fois, elles sont drôles, des fois, elles ne sont pas drôles, ouais, ça dépend, mais J'aime bien, tu vois, cette volonté.
Cette possibilité de rajouter, il va mettre un double cut à un endroit.
Même un regard qui va venir travailler avec un rush qui est même pas dans un rush, qui est dans, tu vois, qui est après, parce que ça a été coupé. Il y a un regard qui est marrant, qui vient positionner sur un contre-champ d'une personne qui a dit un truc, et d'un coup, ça génère, tu vois, de la comédie. Ça, c'est toujours très fort. Donc, c'est pas juste, parce que c'est pas un comédien qui fait que la vidéo est marrante. Ouais. Alors, il y a effectivement des comédiens qui rendront toutes les vidéos marrantes. Non, mais c'est vrai. T'as des gens qui ont une capacité qui sont très forts. Tu vois, je prends un Baptiste Le Caplain. Tu le fais jouer n'importe quoi. Il arrivera, ça sera drôle. Et même peu importe la façon dont tu le filmes, c'est drôle parce qu'il est trop fort. Mais après, t'as d'autres comédiens c'est plus difficile. Donc, il faut aussi travailler avec eux, les emmener dans un. Et les aider. Enfin, tu vois, en fait, t'es juste. Ouais, tu participes au fait de faire rire, quoi. Et je pense que le comédien, lui, c'est pareil. L'humoriste, ce qu'il veut, c'est faire rire des gens. C'est tout ce qu'il veut. Il veut pas se montrer, il veut pas exister, il veut faire rire des gens. Donc voilà, on est tous au service de cette émotion-là. On est tous au service du rire. Et justement, je pense que c'est bien d'avoir, tu vois, d'avoir, comment tu dis, l'humilité des fois de se recentrer sur pourquoi on fait ça, et on fait ça pour faire rire quelqu'un. Donc avant de faire une belle lumière, avant de montrer en plan séquence qu'on est capable de jouer une comédie, avant de faire un montage cut, avant de faire des effets techniques, tu vois, avant de vouloir structurer de ouf un espèce de scénario, avant de faire un son incroyable, tu vois. Avant tout, il faut faire rire des gens, tu vois. Donc à vrai, si t'as pas ça, ton film est foiré, quoi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, des fois, j'ai même l'impression que mon taf, c'est ça. C'est de me réunir avec des techniciens qui sont excellents, beaucoup plus forts que moi dans chaque domaine. Et de faire en sorte que tous ces gens évoluent, soient fiers de ce qu'ils font. Et en même temps, ne desservent pas le message principal qu'on est en train de donner.
Et justement, là, c'est un peu ce que tu as dit là. Quand on reprend à tes débuts, tu as commencé du coup avec ton 5D tout seul à faire les vidéos de backstage, etc.
Ouais.
Pour maintenant faire des films où tu as 30, 40 personnes qui ont bossé sur un plateau avec toi.
Surtout, tu vois, les grosses pubs, par exemple. Ouais.
Et c'est plus du tout le même boulot, quoi. Là, je ne sais plus allumer une caméra.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est assez intéressant parce que, en fait, si tu veux, nous, on est. Moi, je pense qu'à la base, je dénigre pas le mot, mais à la base, je pense que j'étais un vidéaste, tu vois. Mmh. Dans ce que j'entends par vidéaste, c'est quelqu'un d'assez cric qui est capable de maîtriser quand même une grande partie de tout ce qu'il y a dans la vidéo. C'est-à-dire qu'il va prendre. Il est capable de gérer le son, il est capable de gérer des images, il rentre chez lui, il sait les monter, les étalonner, les mixer, tu vois. Donc, il maîtrise quand même beaucoup de choses dans la construction d'un film. Donc moi à la base je faisais ça et j'étais aussi pris pour ça, c'est-à-dire que sans être dupe, il y a aussi un moment donné où économiquement on a vu arriver des gens qui étaient capables de tout faire à la place d'une équipe, donc forcément on était beaucoup moins cher et ça a créé une grosse rupture et d'ailleurs ça a fait chuter beaucoup de budget. Bon, voilà, on a créé un monstre qu'aujourd'hui on maîtrise plus, tu vois. Et du coup tout ça a fait que effectivement tu deviens réalisateur sur des projets où de plus en plus, tu rencontres des gens techniquement qui te dépassent et t'impressionnent. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment dépassé par des chefs-op que je trouve exceptionnels, des monteurs que je trouve exceptionnels, n'importe quelle part de cette équipe technique. Et aujourd'hui, tu arrives sur des projets où tu es 30, tu es 40, où tu sais même plus qui est qui vraiment. Et en fait, oui, tu touches plus à rien, quoi. Tu touches plus à rien techniquement. Moi, j'ai une Alexa, je ne sais pas l'allumer. Une fantôme, je ne sais pas l'allumer, je sais même pas comment faire.
Parce que c'est plus ton boulot, c'est plus ce qu'on te demande.
C'est plus mon boulot, mais même après, pour une question d'assurance, genre... non, mais en vrai, tu prends des séries, des grosses séries d'optique qui coûtent une fortune, tu n'as pas le droit de les toucher, parce que c'est l'assurance, c'est l'assistant cam qui les gère, et ce n'est pas à toi de les gérer, tu vois. Donc ouais, tu sais plus, quoi. Tu es là avec ton petit chercheur de chant ou ton Artemis sur le plateau, c'est tout ce que tu fais, tu vois. Et puis tout est beaucoup plus long, c'est-à-dire que tu cherches plus tes plans, t'es sûr de ce que tu fais. Donc ça, c'est un autre travail. Je trouve que c'est une autre façon de travailler. Et du coup, effectivement, tu te retrouves dans une situation où tu dois mettre en scène des comédiens parce que t'es le réalisateur, mais t'es là parce que t'as réalisé, parce que t'étais fort en technique. Et donc, du coup, tu te retrouves face à des gens où j'ai eu de la chance, tu vois, de jouer avec des... Enfin, de mettre en scène des comédiens exceptionnels, genre de la comédie française et tout, tu vois. J'ai pas fait une semaine de théâtre de ma vie, tu vois. Et t'es là, t'es en train de leur dire...
ça serait mieux si tu faisais ça.
Après, ce que je fais beaucoup maintenant, et de toute façon, je l'avais toujours fait en comédie, j'essaie de garder de l'humilité. C'est pas la personne qui va faire en sorte que ça soit marrant, mais par contre, c'est peut-être la personne qui va avoir le final cut du truc. Du coup, en général, quand je travaille avec un comédien, j'ai ma propre idée de comment vendre la vanne, comment la filmer et comment elle va être drôle. Mais j'aime bien que lui me fasse une probable.
Ouais, qu'il arrive avec des propositions.
J'aime bien que la première prise, je lui dise rien. Parce que des fois, et ça arrive quand même assez souvent, mine de rien, bah je me dis c'est mieux, quoi. C'est mieux que ce que je pensais, c'est mieux que, tu vois. Et même pareil, quand je travaille avec un chef-op, quand je travaille avec, tu vois, je dis, bah voilà, ça m'arrive souvent quand je travaille avec des chef-op, je dis, bah moi, voilà la situation, voilà la séquence, moi, j'ai pas envie de filmer en large, il faut que ça soit filmé, machin et tout, après qu'on filme de là, tu vois. Je fais des gestes avec mes doigts, donc on voit rien. Mais si je te filme, que je te filme un peu trois quarts, un peu côté, un peu top shot, je m'en fous, frérot. Je m'en fous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça soit beau? Et on reste dans ce cadre pour faire en sorte que ça soit beau.
Comment on fait pour sublimer et toujours garder cet objectif de « il faut que ça se fasse marrer les gens ».
Et à l'inverse, des fois, y a un comédien, il est assis et je lui dis de faire une blague et à un moment donné, il va se lever pour sublimer la vanne et je me dis « putain, c'est drôle ». Et à la base, mon cadre n'était pas fait pour ça. Et c'est pas grave, on refait la lumière et c'est pas grave. Parce que c'est celui qui a l'idée la plus forte qui va gagner.
Ouais, qui va gagner, c'est clair.
Et donc... Donc l'idée, il ne faut jamais imposer ses idées, mais être capable de bien les vendre, par contre.
Ouais,
ça, c'est hyper important. Et j'aime bien travailler avec des gens qui sont toujours dans l'envie de me proposer des choses. Que ce soit des comédiens, des chefs-op, des ingé-sons, des costumiers, des make-up. J'aime bien, moi, quand on vient un peu challenger mes idées. Parce que pour moi, ça par contre, je le répéterai jamais, mais un réal, il faut prendre conscience que c'est quelque chose de... un réal, une réalisation, un film, c'est quelque chose de très chaotique. Tu peux croire, tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer de... Tu peux storyboarder à mort pour essayer de faire en sorte que ça soit charté, machin. La vérité, c'est que le jour où tu vas arriver sur le tournage, tu vas être dans la merde à des moments et tu vas jamais faire exactement ce que tu as envie de faire. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il faut prendre ce flux, tu vois, il faut prendre ce courant et se dire, je pensais qu'il allait faire beau, il pleut, c'est pas grave.
Alors, on y va quand même, ouais.
C'est parce que c'est beau sous la pluie, parce que c'est, tu vois, et si t'as cette idée dans ta tête, si t'es toujours focus dans ce truc-là de... C'est pas grave et on va essayer de trouver. Et aussi parce que quand tu travailles avec des gens qui sont compétents, que t'aimes et que t'admires, que tu prends pendant 5 minutes, on discute et vas-y, et comment on trouve une solution à notre problème, tu fais des trucs et qu'en plus, quand tu le fais avec envie, des fois, c'est même encore mieux que ce que t'as pensé, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et ça, je pense que pour aller dans un... Pour aller où? Pour aller nulle part. Mais pour aller sur le fait qu'effectivement, moi, au début, j'étais un peu tout seul. Et ça m'a donné aussi la chance de maîtriser... techniquement plein d'aspects, ce qui fait que je peux avoir une discussion, et ça c'est vrai que c'est hyper fort quand même, et c'est hyper chouette, je peux avoir une discussion avec n'importe quel corps de métier sur un tournage, techniquement, je suis pas à la rue, et on peut parler de problèmes, on peut parler
c'est peut-être ça le
choses,
plus
quoi.
Important même.
Oui.
C'est que pour pouvoir justement bien discuter avec un chef-op et échanger avec lui, etc., si tu connais un petit peu les bases, et ça va être plus simple d'échanger avec lui, forcément. Ouais.
Exactement. Et après, le fait d'avoir maîtrisé aussi tout, mais d'avoir voulu tout maîtriser, quand tu veux tout maîtriser, il y a forcément des moments où tu te rends compte que si tu te spécialises dans quelque chose, tu seras forcément beaucoup plus fort. Et t'as beau vouloir tout maîtriser, tu vas rencontrer des gens qui vont être 10 fois plus forts que toi. Et là, il faut avoir justement l'humilité et prendre conscience aussi de la chance de travailler avec ces gens-là et de ne pas travailler avec ces gens juste pour travailler avec eux et leur faire, enfin, et les obliger à faire ce que dans ta tête d'artiste t'imagines. Non, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble pour faire en sorte que ça soit, pour faire en sorte de ce que je reprends ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'appelle ça l'alignement des planètes, t'appelles ça comme tu veux, mais pour faire en sorte de se trouver cette espèce de symbiose où d'un coup, tu sais pas pourquoi, tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Et ça roule,
c'est fluide et c'est cool et c'est trop bien, quoi. Et ça, faut aller le chercher. Et ça se passe avec des discussions, avec de l'ouverture, avec de l'envie, de l'envie surtout. Faire en sorte que tous les gens qui travaillent avec toi soient dans l'envie de travailler avec toi et dans l'envie de travailler sur ce projet-là, quoi. Ça, c'est hyper important.
Là, tu as parlé de plein d'humoristes différents avec lesquels tu travailles. Tous ces mecs-là, du coup, je pense qu'aussi l'avantage, c'est que plus tu les connais, plus ça va être simple de réaliser des vidéos avec eux.
Oui.
Parce que du coup, tu sais un petit peu comment il va jouer, les trucs qui marchent bien avec lui ou pas. Ouais. C'est quoi?
Alors, il y a aussi une question de confiance, parce que mine de rien, c'est eux qui sont mis en avant. Donc, c'est eux qui sont devant la caméra. Donc, c'est eux qui prennent au final tous les retours, les critiques, etc. Donc, il faut qu'ils aient confiance en toi.
Okay.
Ça, c'est sûr. Et pour qu'ils aient confiance en toi, il faut qu'ils aient vu des choses que tu as fait. que tu aies discuté avec eux, qu'ils te trouvent marrant aussi parce qu'on fait de la comédie. Non, mais c'est con, mais oui, tu vois. Et aussi parce qu'en comédie, comme dans n'importe quelle situation technique, tu te retrouves des fois dans la merde. C'est-à-dire que plein de fois, tu écris des vannes, c'est trop marrant. Tu arrives sur le tournage, c'est pas
ça
marrant.
Ça marche plus du tout.
Et là, tu es là, ton équipe technique, elle est prête et tu es déjà une heure de retard et t'as ta prod qui t'a fait. Tu fais quoi et tout. Toi, tu es là avec ta vanne qui est pas marrant. Bon, bah, tu vois, et c'est vrai que c'est super agréable quand tu te retrouves dans ces situations-là, qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit responsable de trouver une bonne vanne. Non, mais c'est con, mais tu vois, moi, je travaille avec un premier assistant réel que j'adore aussi parce qu'il fait tout le temps des vannes, beaucoup des vannes de merde, je t'adore, Michael Cohen, mais il fait beaucoup de vannes. Et en fait, c'est chouette parce que ça met les gens dans un mood où tout le monde a le droit
de dire, hey, ça de faire bien des vannes de faire ça, ouais. Okay.
Et de libérer la parole. Après, c'est aux comédiens et à moi, effectivement, de dire « Bon, cette vanne, clairement, on ne va pas la mettre parce que c'est nul, tu vois. » Ou « Cette vanne, effectivement, elle est bien. » Mais en tout cas, on est dans une émulsion où chacun propose. Et comme chacun propose, bah, forcément, on arrive toujours sur un truc. Et puis, on n'est pas non plus né de la dernière pluie, quoi, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, il y a quand même des techniques en comédie qu'on maîtrise et on sait, il y a des facilités de choses qui font que... Donc, tu as cette confiance-là quand même qui est importante à travailler avec des humoristes. Le fait que tu aies une expérience avec eux. Et puis après, le fait, et ça, je pense que... je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais le fait de vouloir les mettre en avant et de vouloir les comprendre et pas de vouloir exister toi en tant que réalisateur. Moi, tu prends... C'est con, mais prends Les Visiteurs, le film, tu vois. Les Visiteurs, le film, tout le monde dit ah, c'est trop drôle et tout, machin, etc. Personne, enfin, les gens du métier vont connaître le réalisateur, mais c'est pas non plus, tu vois, quelqu'un qui existe.
Non, bien sûr.
Alors que pourtant, c'est super bien réalisé. Pourquoi ? Parce que toutes les vannes fonctionnent. Et c'est pas parce que juste clavier, il est marrant. C'est parce que c'est bien monté et parce que c'est bien réalisé. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de films de comédie où les réalisateurs ne sont pas connus parce qu'ils n'ont pas d'identité. Tu vois, c'est pas Tarantino, c'est pas, tu vois. Mais ils sont dans une capacité technique qui est incroyable parce qu'en fait, ils arrivent à en fait, tu regardes le film, tu sais même plus qu'il y a un réalisateur, tu sais même plus qu'il y a un monteur, tu sais même plus qu'il y a un compositeur, tu sais même plus qu'il y a... Juste, tu regardes une histoire et du coup, tu es avec ces personnages-là et tu rigoles. Tout fonctionne bien. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dénigrant pour ces réalisateurs-là, mais c'est vrai que c'est un gros, 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 gros travail d'essayer de ne pas exister. Tu vois, non, mais c'est vrai.
C'est horrible dit comme ça.
C'est vrai parce que t'as beaucoup, beaucoup de réalisateurs aujourd'hui qui sont connus parce qu'ils développent des identités qui sont fortes. Et c'est tout à leur honneur parce qu'il y a des choses qui sont exceptionnelles. Attends, je remets pas en cause ça.
Ouais, bien sûr.
Mais t'as aussi tout autant beaucoup de réalisateurs qui sont pas connus parce que justement, ils sont au service des autres. Quoi. Et c'est ça, c'est hyper important, je trouve. C'est plus ma vision du réalisateur.
C'est plus le cas aussi, peut-être avec l'humour qu'avec autre chose dans la fiction, non ?
Alors, ça, c'est vrai. Mais ça peut être aussi le cas pour le drame, parce qu'un bon drame, tu ne vois pas non plus trop le réalisateur. Quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est quand c'est bien réalisé, tu ne fais pas forcément attention. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que c'est un travail, ouais, c'est un travail d'équipe, c'est con à dire, parce qu'on a l'impression que c'est un truc de discours de Cyril-Emilie et César. Mais la vérité, c'est ça. C'est que tu ne peux pas faire un bon film si tout le monde n'a pas envie de faire un bon film.
Et alors justement, tu parlais tout à l'heure de Roman Frésinet, ouais. Parce que c'est vrai que tu réalises du coup beaucoup de vidéos avec lui pour Click, c'est ça ?
Ouais, alors pour le coup, c'est diffusé dans Click,
okay.
Mais c'est produit à l'extérieur. Mais bon, ça, c'est un
d'accord, détail. Donc c'est pas produit dans l'objectif de se dire, à la base quand vous les avez fait, vous n'êtes pas dit « Ok, on fait cette vidéo-là pour que ce soit diffusé dans ce créneau-là » minutes.
Le programme court, à l'époque où nous, on était fans du programme court, c'est-à-dire à l'époque de Bref, c'était à l'époque où des émissions de télé faisaient vraiment des cartons. Il y a encore Quotidien aujourd'hui, tu me diras, même TPMP, mais faisaient vraiment des cartons d'audience et on était beaucoup sur de l'émission de divertissement, moins de l'émission politique. Ouais. Et du coup, pour garder du dynamisme, effectivement,
c'est des petites pastilles,
créer des programmes courts, ce qui est quand même un truc assez français, mine de rien, parce que ça n'existe pas trop aux États-Unis ou un truc comme ça, tu vois.
Okay.
Et ces programmes courts-là, au final, quand ils sont diffusés tout seuls dans un créneau de télé, quand ils sont en dehors d'une émission, c'est un peu what the fuck. Tu te dis, tiens, ouais, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, t'as même pas trop le temps de comprendre ce que tu regardes, que c'est déjà fini, c'est un peu compliqué. Tu vois ? Ou alors tu fais comme Kaamelott, tu fais des grandes salves, tu sais, des séries d'épisodes. Mais du coup, ces programmes courts-là, à la base, c'était fait pour ça. Et il y a eu une grosse chute des audiences télé, avec toujours la volonté de faire des programmes courts. Ce qui fait que Ce qui fait qu'aujourd'hui, les programmes courts sont un peu tombés dans un truc hybride où on ne sait pas trop où les foutre.
Ok.
Alors, ils commencent à réexister un peu sur Internet et encore, parce que ça reste de la fiction, c'est pas non plus ce que les gens consomment le plus sur Insta, sur YouTube
ouais,
et
non,
tout.
En plus, au moment où on parle, tu vois, il y a Studio Bagel qui a très très récemment relancé pas mal de contenu, donc voilà. Une sorte de retour, mais bon.
Donc, le programme court aujourd'hui, pour avoir essayé de vendre des programmes courts sans talent à Canal plein de fois, je vous l'annonce tout de suite, le programme court aujourd'hui revient sur quelque chose où il est lié à une personne. Ou un groupe, ou en tout cas, il est lié à ce que j'appelle des talents, quoi. C'est bizarre à dire comme ça. Mais, tu vois.
Non, mais ça se comprend. Ouais. C'est là, tu as Roman Frezinet qui incarne
par exemple, mais tu peux avoir Aurel Sanégringe qui sont des rappeurs, mais qui incarnent Bloqué. Tu vas avoir... en fait, tu viens chercher des gens, et eux, ces gens-là, qui sont déjà, entre guillemets, superstars, ou un peu connus, ou alors qui demandent à être connaître, font des programmes courts... en plus de ce qu'ils font. Et alors, si ça explose aujourd'hui beaucoup dans le stand-up, il y a aussi une raison, c'est que ça permet de faire de la communication aussi sur l'humoriste et donc de faire rentrer, enfin, de faire
remplir les
la
salles.
Communication pour remplir les salles, exactement. Et donc, du coup, de faire passer les gens dans une autre sphère. Tu vois, moi, quand je travaillais avec Paul Taylor, c'est fou parce que quand on a lancé What the Fuck France, il faisait 50 personnes. Et même après 6 épisodes, tout était booké pendant 4 mois.
Ouais, ça a décuplé, il a changé de salle.
J'ai été le voir il y a 3 mois, il a fait 2 fois le Grand Rex, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait 5000 personnes en 2 jours. Alors que, tu vois, c'est... Alors, je vais pas dire que What the Fuck France a fait que ça, mais ça l'a... En fait, ça a propulsé son personnage.
Ouais, médiatiquement, en tout cas, ça l'a mis sur le devant de la scène.
Et comme son personnage était déjà fort, bah forcément, ça marche pour lui et ça continue à marcher pour lui. Mais c'est ça. En fait, ça permet de communiquer autour d'un personnage. Donc, c'est vrai que tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, mais quand tu fais un format court, il ne faut pas oublier la personne que tu mets en avant. Tu fais un format court pour une personne. Tu ne fais pas un format court parce que tu es réel et ça t'amuse de faire les transitions.
Et alors, justement, tu parles de quand tu veux vendre ton format court et que tu essayes de le faire diffuser. Là, tu es en train de dire, justement, aujourd'hui, il faut que tu arrives avec un talent. Que toi, de ton point de vue, aujourd'hui, là, demain, tu as une super idée. Par contre, tu n'as pas là, le passif que toi, tu as maintenant. Tu veux essayer de le faire diffuser à Canal ou autre. Ça va être compliqué d'aller toquer à la porte et d'arriver avec un pilote sans personne à l'intérieur de Bankable.
C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que le programme court, en soi, ne génère pas non plus énormément d'argent, enfin de retombées financières, que ce soit publicitaire ou tu vois. Et donc, du coup, ce n'est pas des budgets qui sont énormes, mais ça reste quand même des budgets d'investissement. Donc, les chaînes qui veulent investir dans des programmes courts investissent avec de la fidélité de leur talent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est on a fait ton programme court, on produit ton programme court, mais on a envie de travailler avec toi sur le long terme, développer des choses avec toi sur le long terme. Donc, il y a une réflexion qui est liée à l'investissement. Donc, l'investissement, il est financier. Il n'y a pas forcément une volonté de retomber financière derrière tout de suite.
OK.
Même si ça a un peu évolué depuis l'arrivée de on sait qui. Mais du coup, t'as quand même ce truc de vouloir... en fait, si aujourd'hui, t'arrives avec un format court et que... Ou alors, il faut que ton concept soit vraiment très, très fort. Mais encore une fois, avec tout ce qui sort aujourd'hui, c'est difficile d'arriver avec un concept... Et quand je dis un concept fort, c'est pas genre je filme en 4 tiers et tu vois. Non.
Ouais, non, bien sûr.
Faut vraiment. C'est très difficile de réinventer le format court. Tout a déjà été fait. C'est con, mais tu prends n'importe quelle personne qui parle en voix off, tout le monde va te dire que c'est bref, quoi. Alors que ça existait avant bref, que ça existera toujours après. Tu vois.
Mais ils ont marqué tellement
fort. Mais t'as marqué tellement dans le programme court cette idée-là que tu peux même presque plus l'utiliser aujourd'hui dans les autres programmes. Donc, c'est assez difficile de travailler là-dessus. Et de plus en plus, tu vois, par exemple, j'ai fait un programme court avec Hakim Djimili. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir des guests et essayer de rester le plus possible en face cam. Et de laisser rouler, il voulait pas d'effet de réalisation, tu vois, il voulait vraiment un truc où ça se rapproche le plus possible de la scène et de la situation. Et bah ce truc là quand je fais ça avec lui, entre guillemets, il y a rien d'original dans la réalisation, même si j'essaie de faire un truc un peu j'essaie de faire un truc un peu hype machin, mais il y a rien d'original dans la réalisation. Mais par contre, ce qui fait la différence avec n'importe quel autre programme court et n'importe quelle vidéo, c'est lui.
C'est que t'as
Kim Jimmy, lui, ouais. Et lui, ah ouais. Il est drôle dans sa façon d'être drôle et que voilà, c'est tout. et que moi j'essaie juste de faire en sorte que ces blagues fonctionnent, mais ça reste lui, quoi, tu vois. Donc un talent ou une identité, hein, ça marche aussi, il y a des gens qui ont une grosse identité, tu prends un Paul Mirabel par exemple, une grosse identité, donc forcément il va forcément marcher, mais c'est plus difficile de faire du format court avec des gens qui sont moins dans l'action, qui sont plus dans la réactivité, qui sont, tu vois, qui sont pas dans l'actif, parce que du coup ton histoire elle est forcément liée à des éléments extérieurs qui viennent le perturber, donc c'est plus difficile à mettre en scène, mais c'est voilà. Est-ce que cette phrase est longue et pas finalement très longue?
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une question que je pense beaucoup se posent, qu'il y a la question de se dire ok, on essaie de créer notre programme court, on va le balancer sur YouTube, on va peut-être essayer de faire de la vue via YouTube et puis après de le vendre ailleurs, à droite à gauche, ou de le faire produire. Et en vrai, j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui sur YouTube, bah, il y a énormément de monde, donc se faire une place, c'est pas forcément évident. Ouais. Qu'aller vers les studios, c'est pas non plus facile.
Moi, en fait, je réfléchirais autrement. C'est-à-dire que je pense que la génération du web dont je suis peut-être, dont je fais partie, et le défaut que je mets en mettre en avant, c'est peut-être le défaut que j'ai le plus. C'est qu'on est très impatient. Et en fait, il y a cette volonté de vouloir créer, de vendre tout de suite un programme sans avoir rien fait de quoi que ce soit.
Mais parce que c'était le fonctionnement avant. Faisais un pilote à la max. Bah,
c'était le fonctionnement, oui et non. Il fallait quand même exister. Tu vois, c'est des gens qui sortaient pas de rien.
Ouais, bien sûr. Mais
bref, tout le monde dit Ken Kojandi s'est fait connaître avec. Bref, il avait déjà fait des choses avant.
Ouais, bien sûr.
Il avait déjà fait des trucs télé avant. C'était moins connu, mais enfin, quand même.
Tu faisais un pilote, tu allais toquer à la porte des prods, tu présentais ton projet et potentiellement tu faisais financer la suite.
Les prods seront toujours intéressés, voilà. Je pense, s'ils sont motivés de travailler avec vous. Ce qui est difficile, c'est de trouver un diffuseur. Moi, par contre, ce qu'on a peut-être un peu oublié, c'est avant tout, il faut qu'on se fasse marrer et il faut créer des choses, créer des choses, créer des choses, créer des choses. En fait, c'est hyper bien d'avoir une idée de format court. Ce qui est hyper bien aussi, c'est que le format court que tu vas vendre, c'est le 10e que tu vas créer. Tu vois, c'est horrible, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je sais plus qui disait ça sur les séries et ça m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire que moi, pareil, j'essaie d'écrire des séries, j'essaie de les vendre à Netflix, j'essaie de les vendre à Canal, comme tout le monde qui travaille dans ce milieu-là, tu vois. Et on m'a dit, ouais, c'est une super idée, c'est super cool, sachant que c'est la 10e que tu vas vendre, c'est bien, quoi, tu vois. T'as l'expérience que tu refais pas à chaque fois que tu recrées quelque chose. Il y a aussi le fait d'être motivé et il y a aussi des choses que tu contrôles pas. T'as l'alignement des planètes où des fois ça marche, tu sais pas pourquoi. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que si tu fais rien, ça va jamais marcher, tu vois.
Ouais, faut essayer, ouais.
Ouais, il faut créer des trucs et puis avant tout, en fait, même si ça va pas là où tu veux aller, forcément ça ira quelque part. Et puis tu rencontreras, ça se trouve, un chef-op qui va parler de toi, de machin et tout. C'est con, mais nous, en tant que réalisateurs, on a aussi vachement fonctionné avec le réseau. Mmh. C'est-à-dire que des Ludoc, des Théodore Bonnet, des Louis Farge, des David Fontao, des tous ces gens-là avec qui j'ai travaillé, tous les réalisateurs de ma génération avec qui j'ai eu la chance de travailler, que ce soit Léo Bigaoui, Maxime Baudin, voilà, c'est des gens qui, quand ils arrivaient à avoir des projets et à avoir plusieurs projets en même temps, qui n'étaient pas disponibles pour faire ces projets-là, en tout cas nos contacts. Tu vois, moi, plein de fois, on m'a appelé. Parce que Ludoc m'a filé son contact à la prod, ou parce que Théo a filé le contact à la prod, ou parce que, tu vois. Et ça, c'est... Et moi aussi, j'essaye de le faire beaucoup. J'essaye beaucoup, beaucoup de faire ça. C'est-à-dire que tous les réalisateurs que j'aime, et aussi parce que je crois à leur travail, attention. Hein, ouais. c'est, non, mais tu vois, tous ces gens-là, quand j'ai la chance d'avoir plusieurs projets en même temps et que je peux pas, ou alors parce que ça participe pas trop à ce que je fais d'habitude, j'aime bien, moi, de donner des noms. Après, les gens, ils font pas, c'est leur problème, tu vois, c'est leur vie. Mais en tout cas, il y a ce truc-là, c'est-à-dire que travailler en collectif. Et donc, plus tu travailles sur des trucs, plus tu rencontres des gens, plus potentiellement tu crées ton réseau, plus les gens vont t'appeler.
Ouais, c'est ça. Plus il y a de portes qui peuvent s'ouvrir et des propositions qui peuvent se faire.
C'est ça. Alors après, c'est vrai que le réalisateur, c'est très difficile et qu'il faut avoir la petite chatte en plus. Et je pense que je l'ai eu, moi, avec l'apparition du 5D et l'apparition
de YouTube. C'est l'alignement des planètes.
Et Studio Bagel, tu vois. Mais ça veut rien dire parce qu'aujourd'hui t'as tellement de gens, mec, t'as des gens qui font des trucs sur TikTok, c'est ouf, quoi, tu vois.
Oui, il y a une nouvelle génération que je pense on fait plus ou moins partie de la même génération, qu'on comprend peut-être plus trop, moins en tout cas.
Et puis j'ai pas envie de faire du TikTok, moi je suis vieux. Non, mais en vrai.
On n'est pas vieux quand même. Attends, n'exagérons pas. Mais...
Oui, mais enfin, moi, tu veux. Enfin, ce qui est trop cool, c'est de grandir avec son public. Ouais, moi, quand j'aurai 70 balais, j'ai envie de faire de la comédie pour les gens qui ont 70 ans. Pas pour les gens qui ont 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Tout le monde a le droit de rigoler, tu vois. Et tu fais rigoler des gens parce que ça parle de toi et parce que ça vient de toi aussi. Donc. Pourquoi vouloir faire rire absolument des gens de 18 piges quand t'en as 50? C'est absurde.
T'as raison, c'est faire du contenu pour des gens de ta génération, grandir avec eux, évoluer avec eux.
Ouais, et puis ça va, les gens de ma génération, maintenant, ils ont du blé. Hein.
Ouais.
Donc ils vont au ciné, ils achètent Netflix et tout.
Ouais, c'est ça. Là, ils payent l'abonnement, ils prennent des pop-corn. on est bon.
Je déconne, mais en vrai, plus tu parles de... Enfin, si d'abord, si tu te fais rire toi et ça te fait vraiment rire toi au plus profond de toi, et à un moment donné, ça va forcément faire rire des gens de toi. Et puis après, vouloir faire rire tout le monde, c'est un peu con, quoi.
Ouais, c'est pas possible.
Tu vois, c'est con, mais voilà, on est un peu... T'as des humoristes qui vont beaucoup faire marrer, beaucoup plus faire marrer dans des chichas. J'exagère un peu, mais c'est pas faux, tu vois, qui vont retourner des chichas ou retourner des comedy clubs un peu underground. Et d'autres gens qui vont retourner des publics France Inter et les deux marcheront pas dans les deux trucs. Tu vois, c'est en fait, on s'en branle un peu. Tu vois, heureusement d'ailleurs, c'est cool.
Ouais, c'est clair.
C'est bien d'essayer de toucher un maximum de gens. Et il y en a qui arrivent avec une capacité incroyable. Typiquement, Roman Frécinet qui a cette capacité de caméléon qui est assez incroyable. Mais déjà, arriver à faire marrer des gens, c'est bien. Déjà, une personne, c'est bien.
Déjà, une personne, c'est bien. Déjà, si tu te fais marrer toi-même, c'est pas mal.
Je te jure.
Ouais. Parmi tous tes souvenirs de tournage, j'imagine que tu dois avoir quelques anecdotes sympas. T'as un tournage qui t'a marqué plus que les autres que ce soit pour ce que ça a raconté ou pour la façon dont ça s'est déroulé.
En fait, moi, j'aime bien les tournages où tout foire, quoi, tu vois. Des trucs où, c'est con, mais tu vois, par exemple, j'ai fait un sketch avec Alison Wheeler et Benoît Blanc. Quelqu'un de l'équipe a effacé la carte son, tu vois, après le tournage et tout.
Ça va.
Et en fait, du coup, tu te dis, j'ai niqué mon sketch et tout. Et en fait, on a dit, écoute, on va faire le truc en post-prod. Et en fait, ça renforce le sketch parce que ça rapporte une espèce de comédie qui n'était pas là avant. De films, de telenovela, tu vois. C'est con, mais c'est, tu vois, je pense qu'il y a tous ces trucs-là.
Ça veut dire que vous avez fait de la post-synchro de tout l'épisode.
Ça rajoute au côté faux du truc qui fonctionne plutôt bien.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi par rapport à tout ce que tu as raconté, c'est le côté où tu nous dis, moi, j'ai pas fait d'école, j'ai démarré en faisant du montage à droite à gauche, en faisant de la digite, ce qui est souvent pas le plus agréable en plus, donc il faut s'accrocher. Et puis petit à petit, tu te retrouves réel et à faire beaucoup de prod avec Canal, etc. Et je pense que tu dois avoir pas mal de beaux projets qui arrivent.
J'espère, ouais.
C'est quoi, du coup, les conseils aujourd'hui que tu donnerais au toi de 18 ans qui se lance dans la vidéo?
J'ai un parcours un peu atypique et moi, c'est un peu particulier. Ce que je veux dire peut peut-être choquer les gens. Mais moi, je me suis jamais dit j'ai envie d'être réel depuis que je suis tout petit, tu vois. Je crois que j'ai toujours été dans des trucs qui me faisaient kiffer. Mais c'est pour ça, tu vois, j'ai fait de la prod, j'étais assistant de prod, j'étais assistant de post-prod, j'ai été monteur, j'ai été chef op, ça m'est arrivé de faire du son sur des trucs, tu vois, aujourd'hui je fais des podcasts. Mais c'est con, mais même, tu vois, quand ça a commencé à marcher à Bagel, je continuais à faire du making-of à côté. Il y a des gens qui me disaient, pourquoi tu continues à faire du making-of? Ça sert à rien, t'as passé un step. Et en fait, je faisais des trucs qui me faisaient kiffer, quoi. Et je me suis jamais posé la question de comment devenir réalisateur. Je faisais juste des trucs qui me faisaient kiffer et je parlais avec les gens et j'avais envie de bien faire tout ce que je faisais. Voilà. Et après, peut-être que j'ai eu de la chance aussi de croiser des gens qui ont su voir en moi quelque chose et qui m'ont donné la chance d'être, tu vois. Mais je pense que c'est ça l'idée, c'est de vouloir faire des trucs avant même de penser à qu'est-ce qu'on sera après avoir fait des trucs, quoi. Ça, c'est le principal, quoi. Et si aujourd'hui, t'as envie d'être réalisateur ou tu veux être réalisateur, déjà, commence par réaliser des trucs, quoi. Avant de poser la question de quelle école, de quelle boîte de prod, de comment je vends un tout, on s'en branle de ça, tu vois. Alors, c'est sûr, tu vas galérer, t'auras pas forcément une belle image. Mais franchement, aujourd'hui, sans déconner, tu peux faire des très belles choses avec un iPhone et même tu peux faire des très belles choses. En fait, tu peux raconter des trucs super avec pas beaucoup de matos, quoi. Enfin, moi, je vois des gens qui sont capables de faire des trucs qui me font vraiment marrer avec un téléphone. Et t'as des gens qui mettent des Alexa dans tous les sens et qui font des trucs qui me font pas accrocher un sourire, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc, ça veut rien dire. Et plus t'auras la capacité de faire ça et plus t'auras envie de faire ça et plus tu vas y arriver. Et il y a un truc, c'est con, mais tu vois, faut faire ça avec honnêteté. Si tu le fais ça, si tu fais ça dans l'envie de la réussite sociale, du statut, du métier, de ce que ça peut apporter, c'est déjà foutu. C'est vraiment c'est l'envie même de créer avant de mettre un nom sur ce que tu fais comme métier, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, et puis aujourd'hui, sans déconner, t'as quand même, je sais pas combien de podcasts, t'as quand même, je sais pas combien de vidéos sur YouTube, et t'as plus trop d'excuses. Hein.
Ouais, c'est clair.
Nous, à l'époque, on avait vidéo copilote, vite fait, il fallait parler anglais et tout, tu vois.
C'était lourd, ça.
Ouais, c'était bien.
Andrew Kramer.
Ouais, il y avait Elephant, t'avais des petites formations, mais c'était quand même le début, tu vois, des formations online, machin et tout.
Ah là, maintenant, il y a vraiment le choix.
Attends, regarde Ludoc, il donne quand même de sa personne, hein, tu vois. Il fait des vidéos, il sort des bouquins.
Son bouquin qui s'appelle Le Guide du Vidéaste, qui est très bien, je pense.
Guide de survie.
Le Guide de survie du Vidéaste, qui est vraiment génial. Et toutes ces petites vidéos, les bidouilles de Ludoc, qui je pense qu'on peut recommander largement, vu la qualité des contenus qu'il fait.
Parce que je te disais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec Ludoc, et qui, lui, a beaucoup, beaucoup appris avec Internet. Donc, tu vois, au final, on y revient tous, mais on a beaucoup, beaucoup appris tout seul. Et puis, de faire des trucs et se planter, quoi. Faire de la merde.
Se faire kiffer, faire de la merde.
On a parlé de plein de trucs que j'ai fait bien, mais il y a plein de trucs que j'ai fait pas bien, tu vois. Et ça, personne n'en parle. Même moi, j'essaie de le cacher, mais...
tu dois avoir 2-3 cadavres dans les placards, c'est des trucs dans des disques durs bien cachés qui ne sortiront jamais.
C'est sûr, c'est clair.
Dernière question, mais je pense que tu m'as un peu répondu déjà à travers les conseils sur la direction d'acteur, que du coup il y a moins quand tu bosses avec des mecs qui font du stand-up. Mais est-ce qu'il y a une règle d'or quand tu fais de la réale vraiment dédiée à la comédie, autre que il faut faire rire les gens?
Ben, faut écouter les gens qui savent faire rire les gens.
C'est parfait, vrai. Parfait.
Non, mais c'est vrai, tu vois, quand t'as des gens qui te font marrer parce qu'ils font un truc et d'un coup c'est drôle, pourquoi tu veux le forcer à faire autre chose si c'est marrant? Faut écouter les gens qui sont marrants et savoir déceler pourquoi ces gens sont marrants, ça c'est important. Et puis après, il faut quand même se buter un peu, réfléchir à des trucs. Moment culture, je vous conseille la chaîne YouTube Rigolo. Qui est vraiment très 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 bien, qui fait de la vraiment pour le coup de la structure de comédie, qui va chercher dans les archétypes des comédies et tout, mais qui donne un peu des cadres et des bases. Après, vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez prendre la théorie de l'humour, vous serez jamais aussi marrant que quelqu'un qui ne les a jamais lus, mais je pense qu'avant tout, pour faire marrer les gens, il faut être assez honnête avec ce qu'on dit et avec ce qu'on est capable de dire, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a un truc un peu à la con. Et se connaître honnêtement, connaître nos défauts, les grossir, parler des autres et pas parler de nous, enfin, c'est débile, mais c'est des choses qui permettent de créer le pont avec quelqu'un. Et le pont, ça permet de faire rire, même si ta vanne, elle est pas forcément ouf, quoi. Bah ouais, mais c'est ce que les mecs du stand-up cherchent, quoi.
Ouais,
quand t'arrives sur scène et au bout de 30 secondes, que t'as montré ton personnage, t'as montré ton identité, quelque chose de différent, t'as fait le pont avec les gens et d'un coup, t'as 500 personnes, t'es leur meilleur pote. Bah, tu pourras dire de la merde. Bah,
ouais,
les gens, ils vont quand même être dans un bon mood, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Enfin, c'est plus difficile, mais on y arrive quand même.
Donc, le conseil, écouter les gens qui savent faire rire les gens. Et du coup, pour ça, ça fait une magnifique transition. Pour terminer, du coup, allez écouter Yellow Mike, qui est ton nouveau podcast, où justement, on peut peut-être mieux comprendre comment les gens qui font rire les gens font rire les gens. Et ça, c'est important.
Ouais, c'est un peu ça.
Bon, bah, super. Merci beaucoup, Félix.
T'en prie.
Merci pour ton temps. Et puis, à très vite. On te retrouve, du coup, dans ton podcast, les réseaux, etc.
Ouais,
Félix
bon.
Guimard, merci.
Je suis nul en réseau, mais en tout cas, avec plaisir.
Super. Voilà. Merci beaucoup, Félix.
À bientôt.
Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. C'était super de recevoir Félix et d'en apprendre plus sur son parcours et les différents formats qu'il réalise. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, mais aussi à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. D'ailleurs, merci beaucoup aux premières personnes qui ont laissé un avis comme Elaran ou Estelle, ça nous fait super plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À très vite!